Bienvenue au cours numéro 2 de l'ETC Zététique et Autodéfense Intellectuelle. Prenez place tranquillement. J'espère que vous avez assez chaud. Je vous redonne mon courriel, comme on dit, mon email ici, avec le plus Z à la fin, qui vous permet d'accéder directement à une boîte spéciale étudiant à laquelle je réponds beaucoup plus vite qu'au reste. Donc si vous ne mettez pas le plus Z, vous risquez de passer à la trappe. Alors que si vous mettez plus Z, je tiendrai parole et je répondrai le plus vite possible. Voilà, je dédie ce cours, je le ferai de temps en temps, à deux personnes. Un gars qui s'appelle Patrick Dill, c'est un type qui s'appelait Roland Agré, il est décédé il y a quelques mois. Et si j'arrive à aller jusqu'au bout du cours aujourd'hui, vous saurez pourquoi je dédie ce cours à ces personnes. Petit rappel général du cours. La troncature sera en trois niveaux. Je fais les trois premiers cours sur la zététique générale, on va dire, et de l'épistémologie de base. Puis je passerai à la partie méthode et outils. Et puis sur la fin, je ferai des traitements de thèmes bien particuliers. Le prochain cours, c'est le 7 février, puis le 14, puis le 28. Voilà, les PDF sont disponibles en ligne. Vous savez où, mais je vais le redire dans quelques instants. De toute façon, retour sur le contrat qui nous lie. L'idée, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là. Rien ne vous y contraint. Par contre, j'attends de vous que vous sachiez ce que je raconte dans ce cours, et j'ai tendance à aller assez vite. Et il y a des points qui peuvent vous paraître très simples et qu'il faut bien noter, parce qu'ils sont essentiels pour la fabrication de votre rapport. Vous vous rappelez que vous devez rendre un dossier avec plein de petites consignes simples qui sont indiquées sur la page du cortex qui vous est dédiée. Théoriquement, dans chaque cours, je placerai une erreur volontaire. La dernière fois, ça a foiré parce que l'image que j'avais truquée, elle est pas apparue à mon diaporama. Et donc, c'est pas grave, mais cette fois-ci, il y en a une autre encore cachée, bien évidemment. Et c'est l'occasion, quand vous m'écrivez pour m'indiquer l'erreur, si vous avez vraiment trouvé l'erreur, et ben vous gagnez un cadeau tout pourri. Et si vous vous foirez dans votre erreur, c'est vous qui m'offrez un cadeau tout pourri, normal. Voilà. Par contre, si vous me donnez une erreur involontaire que je n'ai pas fait exprès de faire, là, je suis ravi, je suis obligé de corriger mon diaporama et je le dirai devant tout le monde, je le reconnaîtrai au cours suivant. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, j'aurai un erratum à faire. Vu que le cours est filmé, l'idée c'est que ça va être difficile de vous passer un micro pour vous laisser poser des questions. Alors on va faire comme la semaine dernière, si ça vous va. Je vais vous donner mon numéro de téléphone tout à l'heure et puis vous m'enverrez par SMS vos questions. J'essaierai d'en traiter quelques-unes, notamment au milieu du cours. Je ferai une séquence questions. J'en prendrai, je sais pas, 5 ou 6. J'essaierai d'y répondre. Et je ne répondrai pas aux questions qui seront traitées dans les cours ultérieurs, hein, bien sûr. Y a-t-il une bibliothèque spéciale et une permanence ? Oui, il y a une bibliothèque spéciale, je l'ai déjà dit. Elle est la bibliothèque des sciences, juste à côté. Par là, pardon, à chaque fois je montre ici, mais c'est là-bas. Et c'est tous les mercredis après-midi, ou sur rendez-vous. Alors prenez rendez-vous par mail, et puis on essaiera de se calculer un autre moment. Tous les mercredis après-midi, sauf demain. Et bien voilà, demain, navré, je fais cours toute la journée et je ne pourrai pas être là. Mais par contre, de 13h à 15h, il y a mon collègue Ismaël Ben Slimane qui sera là et qui répondra à vos questions, peut-être mieux même que je ne pourrais le faire moi-même. Où pouvez-vous trouver les diaporamas ? La réponse est assez simple, elle est sur cette page-là. Vous allez sur le site du Cortex, cortecs.org, et puis vous cliquez en bas à gauche sur la page, il y a marqué page étudiante, zététique et autodéfense intellectuelle, ting, vous arrivez là, et puis ça va vous demander un mot de passe. Le mot de passe est Dumbledore, avec une majuscule, un grand D, Dumbledore. Voilà. Et notez mon numéro de téléphone. Ne vous en servez pas pour essayer de me refourguer une vieille mobilette pourrie ou me filer un rencard érotique. Je ne répondrai pas à ça. Mais par contre, pour les questions de tout à l'heure, notez-le. Voilà. La semaine dernière, j'ai fait l'erreur de lier quelques textes à quelques images et au moment où je les ai affichées, elles n'ont pas apparu. Alors je les ai mises toutes ici. Vous avez donc manqué la photographie de Ulf Beck qui fait de la pygomancie ou de la rumpologie, ça dépend des termes, c'est-à-dire une sorte de mancie qui consiste à lire dans les raies, dans l'arrêt et les plis des fesses des gens pour prévoir leur avenir. Vous avez manqué également l'image d'une, ce qu'on appelle communément une photo kirliane, mais qui s'avère être en fait un effet corona. J'en ai déjà parlé, et qui était censé être présenté dans les années 30, 1938 exactement, comme étant la preuve de la présence des auras autour des personnes. À côté, vous avez les agroglyphes, enfin un exemple d'agroglyphes réussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas réussis, mais j'en reparlerai, c'est-à-dire les fameux crop circles. Ici, vous avez le schéma du fameux et allégué triangle de la Burle, et à côté, vous avez un des nombreux géoglyphes de Nazca, au Pérou, dans la Pampa Inferno, géoglyphes assez connus parce que, soi-disant, on ne peut les voir que du ciel. Voilà, je reviens pas là-dessus. L'erreur volontaire que je voulais faire et que j'ai ratée, donc, c'était celle-ci. J'avais truqué, j'avais pas mis la photo de Cyril Burt, vraiment, j'avais mis la photo de Benny Hill, qui est un comique anglais que peut-être vous connaissez et qui est assez, dont l'humour est assez discutable parfois, mais moi qui me fait bien marrer quand même. Voilà, et j'aurais aimé que vous le détectiez, mais en fait, comme elle n'est pas apparue, vous risquez pas de la détecter. Donc voilà, je vous la donne, je vous l'offre. Et puis, j'en profite pour remercier Antoine Rotival. Je sais pas s'il est là. Il est là, Antoine Rotival? Il est caché? Il est là. Ok, super. Merci à lui, parce que j'ai indiqué un article du Code du travail quand j'ai parlé de la discrimination à l'embauche, notamment sur les questions de graphologie, cette alléguée pseudo-science qui présume qu'à partir de votre écriture, on pourrait deviner votre caractère profond, etc. Et l'article que j'ai cité est désuet, il a été modifié depuis, et c'est plus l'article L122, mais L1132. Et donc, je ne sais pas comment il a fait pour trouver ça, mais il a trouvé ça, il me l'a indiqué. Donc, merci Antoine, tu as gagné une sorte de guêpe bizarre, étonnante, mais je sais que tu en rêvais, donc voilà, elle est là. Viens la chercher, surtout, débarrassement. Merci. Merci Antoine, c'est cool. Le plan, c'est celui-ci. On s'est arrêté à la partie 3, et aujourd'hui, on devrait la terminer et arriver dans la partie 4, qui s'appelle Plaidoyer pour une humilité sensorielle. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Petit résumé très, très, très bref sur ce que j'ai raconté la semaine dernière. J'ai abordé les champs d'investigation classiques de la zététique, qui est, je vous le rappelle, la méthode scientifique d'investigation des phénomènes réputés étranges, paranormaux, bizarres, mais par extension, les sujets comme les pseudosciences, mais même au niveau politique, les psychologies un peu dérapantes ou déviantes, comme on peut dire, et puis les mensonges industriels, les propagandes militaires, les propagandes politiques, les mensonges science, les mélanges science-idéologie, la pseudo-histoire, les gens qui font mentir l'histoire, parfois qui font mentir la géographie d'ailleurs, et la pseudo-économie. Les premiers conseils que je vous ai prodigués, les conseils n'engagent que ceux qui les donnent, hein, mais n'empêche, gardez-les en tête si vous pouvez. S'informer fatigue, ça signifie que pour passer du simple avis à une expertise, il faut travailler. Donc si vous voulez devenir expert d'un sujet, il faut bosser. Et sinon, vous ne serez que imbibé du bruit ambiant sur un sujet. Donc vous ne pourrez pas être expert en tout, ça c'est sûr, moi non plus d'ailleurs. Et donc quand vous n'êtes pas expert d'un sujet, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de suspendre son jugement, comme faisait Piron d'Élis, c'est-à-dire de dire: je n'ai pas assez d'informations pour me prononcer, donc je suspends mon jugement. Je reviendrai sur ce point plusieurs fois dans le cours. Le marché cognitif, c'est-à-dire le flux d'informations qui nous arrive, il est partial, il est subjectif, il est biaisé, j'en ai déjà parlé. Le web est partial et biaisé selon la façon dont vous le fréquentez. Les journaux aussi, les documentaires aussi, à peu près tous les supports médiatiques sont biaisés. La communication de l'université est aussi biaisée, il faut le dire, voilà, etc. La démarche zététique n'est pas prescriptive, il ne s'agit pas pour moi de vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. L'idée pour moi, c'est de vous encourager à faire vos choix en connaissance de cause, au maximum de la connaissance de cause. Et donc, peu m'importe, moi, qu'après une dénonciation d'une pseudo-science, vous continuiez, vous, à la pratiquer ou à l'apprécier, ça ne me regarde pas, c'est votre affaire. Le tout, c'est que vous le fassiez au plus près de la connaissance de cause. Et puis, je disais qu'il fallait douter méthodiquement, même du cours que je vous donne moi, même des cours que vous recevez ici à l'université. Personne n'est à l'abri d'une erreur, d'une bêtise ou d'une influence idéologique quelconque. Les bases épistémologiques qu'on a abordées, nous avons parlé de science, je vous ai défini la science avec 4 sens différents, faut pas se gourer du terme science qu'on emploie dans ce cours. Dans ce cours, on parle de science comme démarche scientifique contraignante, c'est-à-dire on peut pas raconter n'importe quoi, qui vise à essayer de faire des énoncés un peu plus vrais que faux sur le monde, sur la réalité. On parlera de la réalité un petit peu tout à l'heure. Et puis, on a bien dissocié ce que c'était qu'un acte de foi. Un acte de foi, c'est une affaire personnelle. Vous pouvez faire le choix de présumer qu'une entité surnaturelle comme un dieu existe et vous y référer si vous avez envie, mais c'est une affaire intime et vous n'avez aucun moyen de démontrer à quelqu'un que vous avez raison de croire en la foi que vous avez choisie. Alors que l'adhésion, c'est normalement on adhère sur la base d'un corpus de preuves et l'adhésion, en fait, elle dépend pas de votre point de vue. En fait, vous êtes obligé d'adhérer au bout d'un moment à un corpus de preuves quand il est suffisamment conséquent, parce que la raison nous y contraint. Et que vu que les énoncés qui sont faits sont élaborés de manière collective et normalement le plus débarrassés de la subjectivité de leurs auteurs, normalement ils sont censés remporter votre adhésion. Voilà, on avait parlé aussi de la testabilité. Le fait est que en science, on ne fonctionne que sur des énoncés qui sont testables, qu'on peut vérifier, qu'on peut tester sur la réalité, que ce soit une réalité présente ou une réalité passée. Je pense par exemple en histoire, on travaille sur des objets qui sont passés, ou en archéologie, ou en paléo-anthropologie par exemple. Alors, j'avais une diapo que j'ai indiquée la dernière fois, c'était celle-ci. Point commun des pseudo-disciplines dans leur ensemble, c'est qu'une entité nouvelle est postulée sans éléments de preuve. Par exemple, une force, une onde, une énergie, des bestioles bizarres, une crypte psychogénéalogique comme on en avait parlé, ou même un groupuscule type complot, postulé sans éléments de preuve. Et pourquoi pas, on pourrait dire. Au fond, pourquoi pas? Pourquoi ne postulerait-on pas une nouvelle énergie ou une nouvelle entité ou un nouveau fluide? Et alors, pour vous faire sentir pourquoi on ne peut pas brandir n'importe quand, quand ça nous arrange, une entité nouvelle, je vais faire un tout petit détour par de la philosophie, on va dire, de base. Mais quelque chose que j'ai mis presque 20 ans à comprendre et que je vais vous résumer en une seule diapo, donc les philosophes professionnels vont peut-être s'arracher les cheveux, mais néanmoins, je leur proposerai de m'améliorer ma diapo s'ils en ont envie. Sur le plan de la connaissance, quand on essaye en philosophie de parler de ce qui est, ce qui existe vraiment, ce qui est, on parle d'ontologie, c'est le mot, l'ontologie. C'est le seul mot compliqué de ma diapo. Hein. Et alors, sur le plan de la connaissance, vous pouvez choisir d'être... Il y a deux grosses écoles, on va dire. Il y en a une qu'on appelle le spiritualisme et une qu'on appelle le matérialisme. Le spiritualisme, on va dire que j'ai mis à la louche que ça représente 99,9% des auteurs, mais je trouve que je suis gentil, ça doit être 99,99999% des auteurs. Alors pourquoi ? Ben pour une raison assez simple, c'est que le spiritualisme, en fait, il postule qu'il y a certes la matière, les objets concrets, les choses qu'on peut observer, mais il y a autre chose, il y a quelque chose à laquelle on n'a pas accès, des choses auxquelles on ne peut pas avoir un accès direct. Et il faut passer par, souvent, l'exégèse de prêtres ou de clercs ou de théologiens qui vous révèlent ce qu'il y aurait dans cet autre monde auquel vous et moi, profanes, nous ne pouvons pas accéder. Donc les autres choses, ça peut être plein de choses différentes. Vous repensez peut-être à l'allégorie de Platon, avec la notion d'idée de Platon, nous n'aurions accès qu'aux ombres des vraies choses et que les vrais objets, eux, ne peuvent pas nous être révélés. Dieu fait partie des objets spiritualistes, des objets qui ne souffrent pas d'investigation. Le Saint-Esprit, j'ai mis l'âme, j'ai mis les anges, les démons, l'inconscient freudien fonctionne aussi comme ça. Une volonté cosmique qui guiderait l'évolution ou qui guiderait le processus du Big Bang, comme le proposent les frères Bogdanov, par exemple, ça fait partie du spiritualisme. Alors les spiritualismes ont été majoritaires pour une raison simple, c'est qu'en fait, ça a toujours été très connivant avec les pouvoirs en place, puisque dans l'histoire qu'on a traversée depuis plusieurs milliers d'années, très souvent les pouvoirs publics ont été adossés à des formes théologiques ou à des grosses religions. Et donc les religions, évidemment, avaient tout intérêt à entretenir une part spiritualiste. Vous comprenez bien pourquoi. À côté, vous aviez les matérialistes. Alors, il y en a déjà eu au cours des âges. Souvent, ils ont été soit battus, soit massacrés, soit ils ont publié à titre posthume parce qu'ils avaient trop peur de se faire casser la figure. Et, je sais pas, il y a Dolbach, Delametri, Diderot, des gens comme ça qui ont... Puis même plus tôt, des gens comme Lucrèce, on peut dire, qui fait... Bon, c'est pas tout à fait le même matérialisme, mais on n'est pas très très loin. En gros, les matérialistes, ils disent quoi? Ils disent qu'il y a la matière, les propriétés émergentes de la matière, et puis c'est tout, quoi. Inutile de parler des choses auxquelles on n'a pas accès. Du point de vue ontologique, de ce qui est, vous avez le choix d'être l'un ou l'autre. C'est une affaire de foi, on ne peut pas prouver qu'il y ait une version meilleure que l'autre, on ne peut pas montrer que vous auriez raison d'être matérialiste ou raison d'être spiritualiste, vous pouvez faire votre choix. Mais sur le plan des sciences, sur le plan de la démarche qui consiste à essayer de faire des énoncés sur le monde, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être matérialiste. Matérialiste en méthode, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes obligé d'être matérialiste en méthode. Alors pourquoi on est obligé d'être matérialiste en méthode? Parce que si vous voulez faire des énoncés scientifiques, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas démultiplier à n'importe quel moment les entités qui vous plaisent. Quoi. Vous ne pouvez pas, par exemple, quand quelqu'un vous demande « Tiens, pourquoi un corps lourd tombe par terre ?» Vous ne pouvez pas lui dire « C'est parce qu'il y a une main invisible d'un petit lutin qui tire et qui attire le corps vers le sol. » Vous voyez ? Parce que sinon, quelqu'un pourrait vous dire « Non, ça, en fait, ce n'est pas un lutin, c'est deux et un démon qui appuie dessus. » Voyez ? Et puis en fait, on pourrait en multiplier comme ça à outrance des exemples comme ça d'entités qui ne sont pas nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Et ça devient le festival des entités. Et à partir du moment où vous acceptez dans le contenu des connaissances, une seule entité sans preuve, vous n'aurez plus rien à répondre à quelqu'un qui viendrait avec une autre entité sans preuve. Quelqu'un qui débarquerait avec, je ne sais pas, une volonté immanente qui guide les processus, par exemple. Vous lui dites, t'as pas de preuve. Il dit, ouais, mais toi, t'as bien pris le lutin pour attirer tes cailloux, là, donc pourquoi moi, je ferais pas pareil, quoi. Et en fait, vous sabotez le processus de la preuve si vous acceptez ça. Et si on sabote le processus de la démonstration, eh ben, il n'y a plus de science possible. Il n'y a plus de dénoncé collectivisable, quoi. On ne peut plus faire dénoncer qu'on peut rendre valable pour tout le monde. Ce qui fait que si vous faites une brèche dans ce processus-là, eh bien, vous faites apparaître tous les démons, génies et autres entités surnaturelles. J'en ai mis quelques-unes comme ça qui me font bien marrer. J'ai mis des trackers, pour ceux qui connaissent. J'ai mis la licorne invisible et rose sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. J'ai mis le dragon dont je vais vous reparler tout à l'heure. Et puis le fameux Flying Spaghetti Monster, dont il faut parler avec beaucoup de révérence, comme nous allons le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Si on accepte de faire un trou dans la connaissance en acceptant une entité sans preuve, de fait, vous êtes obligé d'accepter toutes les autres entités sans preuve, quoi. Et c'en est fini du processus de la connaissance. Alors si vous badez sur le mot matérialisme méthodologique, vous pouvez le remplacer par une phrase plus simple, c'est le contrat laïque du scientifique. Le scientifique, dans sa démarche, il est laïque, il ne peut pas invoquer des entités comme ça à tout craint. Ça fait penser parfois à cette phrase que Laplace aurait tenu, le physicien Laplace aurait tenu face à Napoléon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. On est à la charnière du 19e siècle et Napoléon regarde ses travaux et lui dit « Mais est Dieu dans tout ça ?» Et Laplace il dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Voilà. Voici une démarche matérialiste. Alors, au fond de vous-même, vous pouvez postuler ce que vous voulez. Mais dans le cadre des sciences, et notamment dans le cadre de ce cours-là, vous ne pouvez pas démultiplier les entités plus que de raison. On en reparlera tout à l'heure. Ce principe porte un nom assez connu. On appelle ce principe le rasoir d'Occam. Voilà, donc j'ai réécrit tout dans cette diapo. Comme ça, vous pourrez relire tranquillement chez vous au coin du feu. Voilà. Vous ouvrez, en fait, si vous acceptez une entité sans preuve, ou une notion sans preuve, vous ouvrez une boîte de Pandore qui fait exploser le processus collectif de la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça implique, tout ça? Bon, il y a des petites métaphores qui sont assez faciles à garder en tête. Je pique celle-là au cosmologue Carl Sagan et à sa femme Andruyan. Carl Sagan est mort il y a, je pense, presque 20 ans maintenant. C'est un gars qui a été assez connu parce qu'il avait fait une série télévisée qui s'appelait Cosmos. Et dans un de ses bouquins qui s'appelle The Demon Haunted World, avec un sous-titre que j'ai oublié, qui doit être paru, en peut-être traduit, je crois, en français en 1998, mais je ne sais plus à quelle maison d'édition. Dedans, il a une petite métaphore. Je ne vous relis pas le texte entier, mais je vous l'ai mis dans une diapo qui apparaîtra dans le PDF que vous récupérez. Et en gros, ce qu'il dit, c'est, imaginez que j'invite un ami dans mon garage. Et puis mon ami il me dit, oh non, c'est le bordel dans ton garage. Il dit, oui, mais c'est pas ma faute, parce que dans mon garage, il y a un dragon. Alors tu dis, ah bon, mais il est où ton dragon? Bah oui, mais c'est un dragon particulier, il est invisible. Ah bon? Mais bah, alors si on voulait le voir, il suffirait, je sais pas moi, de jeter de la peinture sur lui, on le verrait. Ah oui, non, mais la peinture adhère pas sur lui, parce que c'est un dragon spécial. Ah bon? Mais c'est marrant, il y a plein de poussière partout, on voit pas de traces de pas. Ah oui, mais c'est parce qu'il flotte dans les airs. Ah bon? Mais alors, il crache pas de feu non plus? Ben non, parce qu'enfin, c'est un feu froid. Enfin, tu vois, c'est un truc qui laisse pas de traces brûlées. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il amène un argument pour faire une démonstration du dragon, l'autre lui dit non, c'est un dragon qui est très spécial, qui se téléporte, qui est une crypte tridimensionnelle, peu importe. À la fin, il lui dit, mais alors, c'est quoi la différence entre ton dragon, là, sur lequel on peut pas avoir de preuve de démonstration, et un non-dragon? Et en fait, il y en a pas. Entre quelque chose qui n'a pas de preuve et la non-existence de cet objet, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale. Ce qui fait qu'on parle parfois du dragon dans le garage de Carl Sagan quand des gens vont invoquer, oh, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Un exemple très concret, parce qu'on a travaillé dessus récemment, dans certaines branches de l'ostéopathie, notamment l'ostéopathie crânio-sacrée, il y a des ostéopathes qui disent que le crâne humain fait des espèces de pulsations qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, etc. Et la preuve n'a jamais été apportée de ça. Ça a été allégué, mais sans preuve. On sait qu'il n'y a pas de preuve parce qu'on a lu toute la littérature avec mes collègues Darbois, Guillot et Pinceau. Et on a rien. Il n'y a pas de preuve à l'appui de ça. Ce qui fait qu'entre l'existence d'un MRP introuvable ou qui n'a pas été trouvé et la non-existence de ce mouvement respiratoire primaire, en fait, il n'y a pas de différence. Donc il est logique de conclure qu'il n'y a pas de raison de penser que ça existe. Vous ne pouvez pas prouver que ça n'existe pas. On ne peut pas prouver en science que quelque chose n'existe pas. Vous ne pouvez même pas prouver que les fantômes n'existent pas. Il faudrait avoir été partout, tout le temps, dans tous les châteaux hantés, toutes les maisons. Où on entend des bruits sourds, si vous voulez, il faudra avoir été à toutes les époques pour pouvoir conclure ça. Donc vous ne pouvez pas prouver que quelque chose n'existe pas. Mais vous pouvez conclure qu'il n'y a aucune raison de penser que quelque chose existe. Ça vous paraît clair ce que je vous raconte là? C'est essentiel. C'est essentiel dans la démarche. Alors, qu'est-ce que ça implique? Bon, il y a des gens qui sont amusés à faire des sortes de métaphores qui peuvent apparaître éclairantes quand le cerveau bug sur ces questions. Et je pense notamment à la licorne invisible et rose, qui est un culte qui s'est lancé il y a une quinzaine d'années sur un campus aux États-Unis. Donc il y a des gens qui ont monté le culte de la licorne invisible et rose. Et Steve Hillay, il explique dans le manifeste, les licornes roses invisibles sont des êtres d'un grand pouvoir. Elles sont capables d'être à la fois roses et invisibles. Comme dans toutes les religions, la croyance dans la licorne rose invisible est fondée à la fois sur la logique et sur la foi. Nous croyons sur la seule base de notre foi qu'elles sont roses, mais nous savons de façon logique qu'elles sont invisibles, justement parce que nous sommes incapables de les voir. Donc a priori, dans leur culte, il y a toujours une licorne invisible à côté de vous, mais dès que vous voulez la regarder, tic, elle disparaît. Vous voyez? Après, ils se sont engueulés entre eux, il y a eu un schisme, comme on dit au niveau religieux, et ils se sont divisés en deux. Il y a ceux qui sont restés sur la licorne invisible et rose, les orthodoxes, et puis il y a ceux qui ont dit non, en fait, on croit plus au Pégase marron furtif. Et alors, depuis, ils s'engueulent, voilà, sur Internet. Ce sont des cultes humoristiques qui sont créés pour créer le questionnement justement sur ces questions-là. Et puis vous avez, je pense que vous avez déjà croisé, le monstre en spaghettis volant, dont on ne parle qu'en, quand 10 ans ramène, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais et que, qui est un monstre en spaghetti qui aurait créé le monde de son entité, de son appendice nouillesque, et qui expliquerait pourquoi le monde est comme il est, etc. Il y a tout un évangile qui a été rédigé par Bob Anderson, je crois que c'est en 2005 ou 2006, sur le Flying Spaghetti Monster. Et d'ailleurs, il faut toujours rendre hommage quand on en parle. Alors pour le coup, j'ai mis un t-shirt réalisé par mon copain graphiste François B, qui représente le Flying Spaghetti Monster selon sa vision à lui. Car évidemment, vous n'avez pas de trace directe de l'existence de ce Flying Spaghetti Monster, il faut le postuler en fait. Alors à retenir là-dedans, pour résumer le dragon de Carl Sagan, la licorne invisible et rose et le Flying Spaghetti Monster, une phrase qui revient assez souvent dans les écrits des épistémologues, c'est « affirmation sans preuve, réfutation sans preuve ». Il n'y a pas besoin de prendre du temps de réfuter quelque chose qui est allégué sans aucune once de preuve. Voyez. Et deuxième point, c'est un principe qui vient du droit juridique romain et qui est plutôt assez logique, ce qu'on appelle parfois l'onus probandi. La charge de la preuve incombe à celui qui prétend. C'est celui qui dit que quelque chose existe qui a la charge de démontrer que ça existe. Voyez, vous pouvez pas... Quelqu'un qui vous dit « les fantômes existent », vous dites « ah bon, t'as des preuves ?»« Non, mais prouve-moi qu'ils n'existent pas. » Ben vous l'avez dans l'os, comme on dit. Si, mais même si vous arrivez, je sais pas, devant un pharmacien et que vous dites « mais ça marche votre truc là, le machin que vous voulez me donner ?» et qu'il vous dit « ben non, mais prouvez-moi que ça marche pas. » Non, c'est pas à vous de prouver que ça marche pas, c'est lui qui dit que ça marche, donc c'est à lui de vous donner le corpus de preuves suffisant pour que ça vous convainque. Vous voyez, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend. Et souvent dans les débats, vous remarquerez que quand vous contestez l'existence de quelque chose ou quand vous demandez des preuves, on va vous dire « ouais, mais ouais, tu dis ça, mais prouve-toi que ça marche pas ». Non, n'acceptez pas ce débat, parce qu'il est biaisé ce débat. La charge de la preuve de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle entité ou d'une nouvelle corrélation, par exemple, appartient à celui qui prétend. C'est pas à vous de la réfuter. Pour pousser un peu plus loin, juste la métaphore, pour filer la métaphore, comme on dit, j'emprunte à cet auteur que j'aime beaucoup, Bertrand Russell, la fameuse théière. Peut-être certains d'entre vous connaissent la théière. C'est un texte qui devait être publié dans une revue en 1952, puis la revue, en lisant le texte, elle a dit « non, là, on ne va pas publier, c'est trop rude ». Pourtant, le texte est assez simple. Il dit, si, je vous le lis, hein, excusez-moi, « si suggérer qu'entre la Terre et Mars, dans la fameuse ceinture de Kuiper, vous savez, se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil ». Bon, personne ne serait capable de prouver le contraire, pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérerait aussitôt comme un illuminé. Et cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans les livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. Relisez ça à froid, je vous jure, c'est monstrueux. C'est tellement monstrueux, enfin c'est tellement fort, quoi, que bon, ils se sont dit, bon, on va pas le publier. La revue Illustrated Magazine c'est couché, on va dire. Le texte s'appelait « Is there a God ?» Et il posait la question, Russell, il posait la question, en gros, est-ce qu'on peut se contenter d'être athée, est-ce qu'on peut se contenter d'être agnostique de la théière, dire « ah non, je suspends mon jugement ». Est-ce que l'agnosticisme est une posture qui tient la route, ou est-ce qu'il faudrait juste se contenter d'être athée de la théière? On pourrait dire athéiériste, si vous voulez, athée de la théière, et se dire « bah non, il n'y a pas de raison de postuler, vu qu'on n'a aucune preuve à l'appui de ça, postuler l'existence de cette chose-là qui se traînerait dans la fameuse ceinture ».